Eh bien, merci à tous d'être venus pour ce dernier jour des rencontres Animated in France, donc le festival de l'animation française de Clermont-Ferrand. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au patio donc de la librairie des Volcans. Et donc, je tenais à vous dire en fait que dès la première réunion qu'on a fait avec Animated in France, on avait comme objectif de montrer donc que la création du cinéma d'animation n'est pas de l'animation en général n'est pas seulement réservée à une intelligentsia parisienne, mais aussi qu'elle peut naître partout, y compris dans les scènes locales. Et je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur ambassadeur à ce niveau-là que Ulysse Malassagne. Ulysse, bonjour.
Bonjour.
On va, pendant cette petite heure, donc, présenter ton travail depuis tes origines donc, antaliennes jusqu'au Collège Noir. Donc, une sorte de boucle d'aventurier, comme tu as un prénom prédestiné là-dessus. Voilà, du Cantal jusqu'au Cantal à nouveau, avec plein de changements et plein de péripéties. Je te propose donc de commencer dès maintenant cette rencontre. Allez. Avec donc tes origines, puisque tu, donc, comme je dis, tu viens du Cantal.
Je viens du Cantal, oui. Donc je suis originaire d'Aurillac. Et j'ai grandi un peu dans les montagnes aux alentours. J'ai même fait un collège dans un petit village qui s'appelait Saint-Martin-Valmeroux, ce qui inspirera plus tard le Collège Noir dont je vous parlerai. Et j'ai aussi étudié à l'école au lycée Saint-Géraud, qui est un lycée de la communication, qui du coup était un moyen pour moi de continuer à dessiner parce que j'avais cette passion pour le dessin depuis tout petit, et de rester dans le Cantal tout en faisant des études un peu axées sur le dessin.
Tout à fait. Sachant que Saint-Géraud est d'ailleurs le saint local vraiment typique de la région.
Exact.
Donc voilà. C'était vraiment encore une prédestination très très locale. Ce séjour dans le Cantal, cette vie dans le Cantal, est-ce qu'on va le voir, donc elle t'a déjà beaucoup inspiré sur évidemment le Collège Noir, mais même sur tes autres projets finalement, la nature, ouais. C'est quelque chose qui semble avoir déjà beaucoup compté, être assez prééminent dans ton travail.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de mes BD où on peut reconnaître un peu des influences, de l'influence des paysages cantaliens ou de la montagne, même d'une manière générale, un peu dans toutes mes BD. Et moi, j'ai toujours trouvé que le Cantal, c'était un endroit qui était assez cinématographique, qui se prêtait beaucoup à vouloir raconter les histoires dedans, en fait, et à servir de décor à des histoires d'heroic fantasy ou de choses comme ça. Donc moi, quand j'étais tout petit, en me baladant dans la forêt, j'avais l'impression d'être dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça m'amusait beaucoup et ça me faisait imaginer plein d'histoires, quoi. Donc c'était pour moi un peu un découlement de m'inspirer de ça après pour créer mes premières histoires, mes premières BD, dessins animés. Voilà.
Et justement, est-ce que ça peut être aussi lié à un parcours familial peut-être qui a pu aussi aider à inspirer, puisque après tout, voilà, le lieu compte, mais aussi nos racines ne sont pas forcément uniquement sur le lieu à proprement parler, sont aussi à travers les valeurs que transmet ta famille, peut-être. C'est quelque chose qui a compté.
Oui, d'autant plus que mes deux parents sont artistes tous les deux. Donc j'ai un père qui était comédien, j'ai une mère qui est peintre, et donc depuis tout petit, ils m'encourageaient déjà beaucoup à dessiner. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai que je me suis lancé assez vite là-dedans, en fait. Aussi loin que je me souvienne, j'avais un crayon dans les mains et avec mon père qui faisait qui était dans une troupe de théâtre de rue, donc qui se baladait en France avec sa compagnie, ma mère qui suivait, qui faisait des carnets de voyage. Donc moi, ça m'a aussi donné le goût des carnets de voyage à ce moment-là, chose que j'ai continué à faire après très longtemps et que je continue à faire. Donc oui, clairement, l'influence familiale a joué, je pense. Et du coup, j'ai pas eu ce frein que beaucoup d'artistes des fois rencontrent quand ils ont des parents qui sont pas du tout dans le milieu artistique et qui pensent que le milieu artistique c'est un peu dangereux d'en faire un métier. Et donc moi, c'était plutôt l'inverse, c'est qu'ils m'ont assez encouragé à faire pareil et puis à vivre d'une passion comme ça, que c'était tout à fait viable et que ça pourrait marcher.
D'où donc ton passage à l'école Saint-Géraud et plus tard avec une école encore plus prestigieuse dont on va peut-être remonter dès maintenant,
ouais.
Donc l'école des Gobelins.
L'école des Gobelins, ouais. Je vais vous mettre quelques images du coup du film de fin d'études que j'ai fait là-bas, et puis vous verrez quelques images aussi de l'ambiance un peu dans les classes. Mais en gros, c'est donc l'école des Gobelins, c'est une école de dessin animé qui forme vraiment donc à la réalisation de dessins animés, tout le processus de création depuis l'écriture jusqu'à l'image finale. Parce que donc en plus de cette passion pour la bande dessinée, moi j'ai très vite été passionné aussi par le dessin animé. J'ai grandi évidemment comme toute ma génération avec l'animation japonaise qui est arrivée en force en France quand j'étais jeune et qui nous a un peu montré qu'on pouvait faire de l'animation qui n'était pas seulement pour enfants, on pouvait faire aussi de l'animation beaucoup plus adulte et un peu à destination de tout le monde et surtout avec beaucoup d'ambition parce que jusqu'à présent, je me souviens quand j'étais tout petit, les dessins animés français ou américains souvent étaient assez... Il y avait des très bonnes choses, mais c'était très léger, c'était du divertissement, c'était pas très sérieux. Avec l'animation japonaise, ce qu'on avait un peu découvert, c'est qu'on pouvait aussi faire des choses très ambitieuses, très dramatiques, que ça pouvait vraiment être du cinéma aussi sérieux que pouvait l'être le cinéma live, en fait. Donc cette passion pour le dessin animé est venue assez, à cette période-là, et donc l'envie de faire une école. Moi, j'ai tenté à la fois des écoles de bande dessinée et de dessin animé, en fait, les concours. Je m'attendais pas à être forcément pris au Gobelin parce que c'était juste après le bac. Normalement, il faut des années de prépa et tout. Mais moi, j'avais déjà fait un peu des dessins animés dans mon coin. J'avais récupéré le logiciel Flash quand j'étais petit et j'avais commencé à faire des petits courts-métrages. Donc j'avais déjà quelques projets à présenter au concours. Je pense que c'est ça qu'elles jouaient qui m'ont laissé rentrer assez tôt, finalement. Et voilà, et donc ça a été assez important parce que c'est là aussi que j'ai rencontré mes deux associés avec qui plus tard j'ai monté mon studio de dessin animé. Oui. Donc voilà, c'est une école qui m'a à la fois formé au dessin animé, mais aussi il y a plein de choses que j'ai appris là-bas que j'ai pu aussi intégrer dans mes bandes dessinées et dans ma manière de faire de la bande dessinée aussi.
D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est que justement, toi, quand tu es arrivé au Gobelin, c'était normalement plutôt la période aussi où le cinéma et l'animation 3D étaient quand même très, très importantes. Et assez rapidement, quand même, tu es resté sur le cinéma 2D. Qu'est-ce qui a fait switcher sur ce choix-là, en tout cas ?
Là encore, je pense que c'est simplement parce que tous les dessins animés avec lesquels j'ai grandi, moi, étaient de l'animation 2D. Mmh. Et ce côté artistique me plaisait beaucoup. Donc à la fois dans l'aspect visuel, artistique, que je ressentais en voyant de l'animation 2D, et aussi dans l'aspect technique, purement, en fait, de la manière de faire de la 2D. Faire de la 3D, ça veut dire être sur un ordinateur derrière un logiciel assez austère avec des cubes gris à essayer de former quelque chose. Enfin, alors que l'animation 2D, c'est du dessin, donc c'est beaucoup plus agréable à faire. Et effectivement, c'était un peu la période où l'animation était partie très loin dans la 3D, tous les films étaient en 3D, c'était un peu le boom de la 3D, quoi.
Les studios à Disney avaient même fermé à cette époque-là.
C'est ça, ils avaient arrêté de la 2D, enfin tous les gros films, l'industrie se dirigeait plutôt vers la 3D. Sauf que nous, au Gobelin, donc à la fois mon petit groupe avec lequel j'ai fait mon film, mais tous les autres élèves en fait, de cette promo étaient très attachés à la 2D. Au point que toute l'école voulait qu'on fasse, les profs voulaient qu'on fasse des films en 3D. Nous, on a tous dit on veut faire des films en 2D et on a tous fait des films en 2D. Parce qu'il y avait ce malgré le fait qu'on disait que la 2D c'était mort, que maintenant il fallait se mettre à la 3D dans l'industrie, nous on y croyait encore beaucoup et on se disait ça va revenir, ou en tout cas nous de toute façon on a envie de faire ça, donc on va tenter de faire ça en fait.
Et d'ailleurs, on voit actuellement qu'il y a un retour de.
Et voilà, l'avenir nous a plus ou moins donné raison parce qu'on voit qu'en fait la 2D n'est pas morte du tout, qu'il y a eu même un petit retour à la 2D ces dernières années avec les plateformes qui ont commandé pas mal de projets. Donc comme quoi, ouais, autant la 3D, maintenant on a un peu fait le tour parce qu'on a atteint le côté photoréaliste qu'ils visaient à une époque, qui était un peu chaque film fallait qu'il soit plus réaliste que le précédent et tout. Donc maintenant, en fait, ils sont arrivés un peu au stade où ils cherchent à trouver d'autres rendus et ils retournent vers la 2D, même les gros studios avec des 3D qui sont maintenant inspirés de rendus 2D, donc il y a de rendus graphiques. Voilà, il y a une espèce de boucle comme ça qui fait qu'en fait, maintenant on a atteint le plafond de verre un peu de la 3D, ouais. Et puis il faut revenir à quelque chose de plus artistique, quoi.
Et donc, si on revient au moment où tu es donc en formation, tu commences aussi à signer ton premier album de bande dessinée, donc Jade.
Ouais.
Et donc là, pour le coup, c'est un retour à la bande dessinée pour toi qui étais donc à l'origine passionné de bande dessinée également.
Ouais. Donc moi, je continue à faire un peu de bande dessinée pendant mes études, du coup, au Gobelin. Et le projet Jade est né de manière un peu pas par hasard, mais ça s'est fait un peu de manière particulière. C'est que j'avais fait, moi j'étais très fan d'un jeu vidéo qui s'appelait Uncharted, Uncharted 2, qui était un jeu vidéo d'aventure. C'était un peu Indiana Jones. Ça se passait au Tibet, donc voilà, il y avait tout cet exotisme un peu du film d'aventure, enfin du jeu vidéo d'aventure en l'occurrence. Et ça m'avait inspiré quelques planches de BD où je me suis dit je vais faire quelques planches. Qui était à peu près celle-là. Et je ne savais pas trop quoi en faire, j'avais juste fait ça un peu, j'avais inventé deux personnages très vite, je les avais juste mis en scène sur 3-4 pages. Et j'ai posté ça sur un forum à l'époque qui s'appelait, qui était le forum de Manolo Sanctis, qui était La particularité, c'était que c'était un forum qui était lié à une maison d'édition.
Oui, donc, c'était du crowdfunding, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
C'était peut-être du crowdfunding, je ne sais plus comment ils finançaient. Il me semble. Mais en tout cas, ils avaient ce système, en gros, ils proposaient ce forum où en tant que jeune auteur, auteur amateur, on pouvait mettre nos planches. Il y avait toute une communauté donc, qui réagissait, qui disait « Ah, c'est bien », qui se donnait des conseils et tout. Et eux, ils voyaient un petit peu les notes aussi qu'accordaient les gens à chaque planche. Et donc, en fonction de ça, ils pouvaient proposer aux auteurs de ce forum des contrats d'édition. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ils ont vu les planches, ils m'ont proposé d'en faire un album. Sauf que la boîte a coulé au moment où j'ai terminé l'album, en gros. Donc, j'ai pas eu le temps de le sortir chez eux.
C'est bon.
Mais c'était un peu, c'était un peu précaire, je crois, cette maison, parce que en plus, c'était très très mal payé. En fait, je m'en suis rendu compte après coup. C'était mon premier album, donc forcément, généralement, le premier album, on se fait avoir, on signe pour des sommes dérisoires parce qu'on veut faire notre première BD. Mais au moins, j'ai pu récupérer les droits. C'est-à-dire, comme ils ont pas sorti l'album, j'ai récupéré les droits de cet album. Et je suis allé le proposer à Gléna, avec qui je travaillais pour le journal de Tcho à l'époque, où je faisais quelques dessins par-ci par-là de temps en temps. Et donc ils ont accepté de m'éditer cet album. Donc ça a été mon premier album BD, qui finalement s'est retrouvé chez Gléna.
Et ce qu'on peut noter, c'est déjà quand même ce découpage très cinématographique, qui je pense a été appris aussi au Gobelin.
Ouais, c'est là où pour moi les deux se rejoignent un peu, c'est que j'ai tendance à mettre en scène même mes bandes dessinées de manière très cinématographique. C'est-à-dire, moi je les visualise beaucoup en mouvement déjà, et donc ça pourrait presque être des storyboards en fait de films, la manière, surtout les scènes d'action, la manière dont je les mets en scène. Après voilà, j'essaie quand même aussi de penser au fait que c'est un média spécifique, la BD, qui apporte aussi d'autres libertés, et de pas me rester focus sur l'idée que je fais un storyboard d'animation, parce que ça aurait pas trop de sens, et de plutôt utiliser aussi les spécificités de la BD pour faire un découpage qui se prête aussi à la BD. Mais il y a forcément un écho entre les deux, quoi. Je peux pas m'empêcher de, voilà, quand je fais une BD, de le voir comme un film dans ma tête.
C'est un langage visuel et un langage graphique, de toute façon.
C'est ça, exactement.
D'accord. Et donc arrive à ce moment-là, donc la fin de tes études et la création, si je dis pas de bêtises, du studio La Cachette et donc ton second projet de bande dessinée qui va arriver juste après.
C'est ça, ouais.
Donc
le projet de ce projet studio, je vous ai parlé des deux camarades que j'ai rencontrés pendant mes études, qui sont Julien Cheng et Oussama Boisheria. Et c'est avec ces deux amis, on a fait un an de où on a bossé un peu chacun de notre côté dans des studios d'animation. Moi, j'avais bossé en tant qu'animateur, par exemple, sur le premier film Ernest et Célestine. Eux avaient fait du storyboard. Julien était allé faire un stage chez Disney. Et on s'est réunis un an plus tard et on s'est dit on aimerait bien quand même monter notre studio parce que avec toute cette expérience qu'on a accumulée, on s'est rendu compte qu'en fait nous on avait envie surtout de raconter nos histoires et que ça nous frustrait un peu d'être sur des grosses machines parce que c'est vraiment une industrie le dessin animé, donc c'est des gros projets, et on est un peu un maillon d'une grande chaîne et ça peut être frustrant quand on a des ambitions un peu artistiques. Donc on s'est réunis, vous avez vu des photos du lieu où on s'est installé, qui était vraiment une petite mezzanine qu'on a empruntée, on va dire, à des amis qui avaient leur boîte et qui avaient un petit espace dont ils ne se servaient pas, donc on est venu s'installer un peu dans leur grenier, quoi.
D'où le nom La Cachette.
D'où le nom La Cachette. Vous voyez aussi quelques ébauches de notre logo, parce qu'on voulait partir sur une souche d'arbre, on se disait, parce qu'on aimait bien la nature, et puis l'idée que ça faisait une petite cachette, une souche d'arbre avec une porte comme ça. Donc on a créé ce studio. Donc on était vraiment trois. À la base, on n'était même pas un studio, on était un collectif en fait. Et donc on était juste trois freelances qui bossions ensemble, mais on voulait donner l'illusion qu'on était un studio. Donc on s'est directement vendu comme un studio en fait. On a créé un site, et voilà. Et le premier projet qu'on a fait du coup pour se vendre en tant que studio, parce qu'il fallait quelque chose pour se montrer un peu, c'était un petit trailer pour une bande dessinée que j'étais en train de faire justement, ma deuxième BD du coup, qui s'appelle Kairos. Et donc l'album était, le premier tome était en train d'être fini. On cherchait un projet, j'ai proposé que ce soit une petite bande annonce, parce que j'avais un peu de temps moi pour faire ça. Pour m'occuper de faire la direction de ce truc, de superviser ce projet. Et puis l'univers était créé, donc on n'avait pas besoin d'inventer les personnages, l'histoire et tout, juste on reprenait les persos de la BD, on les mettait en scène, et voilà. Et du coup, c'est devenu le premier projet du studio. Donc il y avait eu quand même un petit travail d'adaptation à faire, parce que c'était donc à la base une bande dessinée. De la même manière que ça va être le cas avec le Collège Noir, on ne peut pas directement transposer la bande dessinée en film d'animation. Il faut adapter les designs des personnages pour qu'ils soient animables, parce qu'il y a certaines spécificités. Il ne faut pas que les personnages soient trop complexes, qu'il y ait trop de détails, parce que sinon c'est impossible à animer. Enfin, voilà, il y a tout un travail visuel à faire pour adapter d'un format à l'autre, en fait, tout simplement. Donc voilà, on a fait vraiment une petite prod miniature avec, vous voyez, des recherches de décors, de personnages, de couleurs pour avoir un peu une idée du rendu du film. Et tout ça, on a fait ça à trois. Et on s'est limité, on s'est dit on va faire un truc qui fait 2 minutes maximum, parce que bon, au-delà c'était un peu compliqué.
On rappelle l'animation, c'est très très long et
L'animation c'est très très long. On a eu de l'aide d'amis, justement des anciens camarades de classe des Gobelins, qui ont accepté d'animer un plan ou de nous aider à coloriser un peu. Enfin voilà, qui nous ont filé un coup de main, parce que sans ça on n'y serait pas arrivé à 3, ou ça aurait pris très longtemps. Et ça a quand même pris 1 an pour faire juste ces 2 minutes d'animation. Voilà. Et du coup je peux vous montrer ce que ça donne. Merci. Voilà, donc c'est devenu la bande-annonce pour la sortie de la BD. Donc l'éditeur était très content qu'on lui fasse une petite bande-annonce gratos comme ça de ce niveau.
Surtout qu'Ankama est un studio, et il y a aussi un studio d'animation.
Il y a
un rapport entre les deux qui est.
Sachant que j'ai gardé les droits audiovisuels pour ce contrat-là, ce qui est rare, parce que généralement les éditeurs prennent tous les droits, même d'adaptation audiovisuelle. Là, je sais pas, le directeur de collection m'a dit qu'il avait fait exprès de me les laisser parce qu'il savait que j'avais un studio. Je soupçonne qu'en fait il a oublié de me les faire signer ou que voilà, c'est une partie du contrat qui n'est pas passée dans le mail. Parce qu'après coup, sur le tome 2, ils ont essayé de me faire signer rétrospectivement sur le tome 1 tous les droits audiovisuels. Parce que je leur ai dit non, parce que maintenant on avait fait ce petit trailer et je voulais pouvoir garder un peu les droits dessus, sinon ils allaient récupérer ça aussi. Donc voilà, mais ça nous a servi du coup à montrer un peu ce qu'on voulait faire en animation, c'est-à-dire quelque chose d'ambitieux. Ça nous a servi à poser notre style aussi, parce que c'est un style qu'on a essayé de garder sur chaque production, toujours le même trait un peu épais, un peu rough, c'est-à-dire
souvent très pinceau aussi.
Qui fait très pinceau. On tenait un peu à ce truc-là. On a été pas mal inspiré par le premier film Ernest et Célestine, justement, sur lequel j'avais travaillé. Et mon collègue Julien Cheng avait aussi travaillé sur ce film-là en tant qu'animateur. Et on avait trouvé ça vachement agréable de bosser sur ce film-là, parce que ça permettait de faire de l'animation de qualité sans forcément avoir à passer trop de temps à rendre ça très propre. Parce que les gros films comme Disney ou beaucoup de prods de dessins animés en 2D, souvent ils ont un trait qui est très fin, assez précis. Très fermé partout, et ça prend un temps fou à faire, en fait, ce rendu là avec un rendu qui est un peu plus artistique comme le nôtre, on va beaucoup plus vite, mais du coup on peut passer beaucoup plus de temps à faire de l'animation, de la belle animation, des plans complexes comme celui qu'on a vu sur la fin avec la caméra qui suit le personnage à travers les échafaudages, qui est quelque chose qui est assez coûteux à faire en animation. Mais avec ce style là on s'est dit qu'on pouvait vraiment pousser l'animation 2D assez loin en termes de mouvement et de
Et ça donne une énergie, justement, ce côté rough qui garde cette énergie. Souvent, quand on fait un trait plus fermé, on perd un peu dans le trait de cette énergie qui...
Exactement.
Qui justement, à rester fermé, justement, fait perdre une grande partie du trait et de l'énergie du dessin, vraiment.
Complètement, ouais. Et donc, c'est un style qui est resté un peu dans toutes nos productions, un peu jusqu'à aujourd'hui, ouais. Même celles qui sont des projets de commande.
Tout à fait.
En fait, on
va justement avancer dessus, puisque la petite cachette finit par se faire un peu repérer, on va dire ça comme ça, et notamment à l'international avec des artistes et des projets qui vont être de plus en plus importants et prestigieux.
Ouais. Et notamment, là, je peux vous montrer la bande démo du studio pour que vous ayez un aperçu un peu de tous les projets sur lesquels on a bossé depuis qu'on existe, parce que j'aurais pas le temps de vous montrer tout en détail, mais voilà, avec ce petit.
J'aimerais savoir si parmi vous, dans cette bande démo qu'on vient de voir, il y a des projets qui vous ont parlé, certains ont reconnu.
Oui, Primal, c'est nous.
Il y a bien Primal dedans.
Ah bah merci, ça me fait plaisir. C'est pas la plus connue, c'est le plus gros projet sur lequel on a travaillé, mais c'est resté très exclusif aux États-Unis parce que ça n'a pas été beaucoup diffusé en France. C'était une production américaine. Mais super, du coup, ça me fait plaisir. Un autre truc d'ailleurs que je peux préciser, c'est que nous, assez vite, on s'est dit qu'on voulait se concentrer sur des projets narratifs, c'est-à-dire directement des projets qui racontent des histoires. Donc tout ce qui était pub et trucs plus commerciaux, on a décidé de ne pas le faire. Par rapport à d'autres studios qui ont pu émerger à peu près en même temps que nous et qui ont fait aussi pas mal de publicité, c'est un moyen de faire pas mal d'argent et de se faire connaître assez vite, parce que c'est des projets qui sont assez rentables et qui permettent d'expérimenter visuellement, enfin de faire de l'animation de qualité. Donc il y a beaucoup de studios qui ont grossi plus vite que nous. Nous, on est resté très longtemps avec cette fixette qu'on voulait faire que des projets narratifs et raconter des histoires, que ce soit du court-métrage, de la série, des pilotes, des choses comme ça. Et donc ça a pris un peu plus de temps, c'est-à-dire que vraiment au début on n'avait pas forcément beaucoup de projets, on a eu un peu de mal à avoir des commandes quoi, en fait,
bien sûr,
qui n'étaient pas de la pub. Et voilà, donc il y a eu, en fait ça s'est fait petit à petit. Un des premiers projets qu'on a eu, c'était Moon, le gardien de la lune, qui était un long métrage en 3D, et il voulait 6 minutes d'animation 2D à l'intérieur. Oussama, mon collègue, avait fait du storyboard sur le film, donc il savait qu'il avait un studio d'animation, donc ils l'ont proposé de faire ces 6 minutes. Donc là on était encore tous les 3 seulement, on a bossé, on était 4 cette fois, on a embauché la première personne avec nous pour nous aider. Et donc voilà, c'était 6 minutes. Ensuite, c'est assez vite qu'est arrivé le projet Love, Death and Robots aussi.
D'accord.
De Netflix, qui a été un de nos premiers gros projets où on a vraiment dû monter une vraie équipe en fait de production, donc avec toute la partie prod aussi, c'est-à-dire des gens à qui déléguer un peu l'organisation de la production, le suivi de la production, pour nous rester un peu concentrés sur l'artistique. Avec une vraie équipe d'animateurs aussi, donc on avait une quinzaine de personnes qui ont bossé sur ce projet. Et donc ça a été un projet assez important, parce que c'était la première fois qu'on faisait un projet de cette ampleur quoi. C'était une série de courts-métrages, donc on a fait juste un court-métrage, un épisode, ça dure 14 minutes, donc là encore c'était un peu plus long. Donc voilà, chaque fois le projet suivant était plus long et plus gros que le précédent.
On fait monter l'ambition vraiment à chaque fois quoi.
C'est ça, exactement. J'ai quelques recherches du projet ici. Voilà, donc pareil, avec un style assez ambitieux, un peu narratif. À la base, ça devait être un projet d'adaptation de Métal Hurlant. Ils voulaient faire une série de courts-métrages adaptés de Métal Hurlant. Ils nous avaient contactés pour ça la première fois. Finalement, le truc a traîné. Et quand on les a recontactés, en fait, c'était devenu un autre projet original, du coup, Love, Death and Robots, supervisé par David Fincher et Tim Miller, qui est le gérant d'un studio de dessin animé, d'animation, mais plutôt 3D. Donc voilà, là on n'a pas eu à faire le scénario et la réalisation, c'était un réalisateur qui était externe qui a fait la réalisation, mais par contre on a eu la charge de tout l'aspect visuel, donc on a pu vraiment mettre notre patte visuelle dedans. Donc là aussi c'était aussi un step up en termes de responsabilité, parce que on pouvait au moins contrôler l'aspect visuel, parce qu'on avait fait aussi un ou deux petits trucs précédemment où on n'avait pas forcément le contrôle des designs, de la qualité visuelle qu'on voulait. Et donc là, pouvoir avoir au moins la main sur tout ça, c'était déjà un premier truc important pour nous.
Et justement, là, c'est vrai que pour le coup, tu parles de production internationale, avec cette idée donc de devoir faire ses preuves véritablement avec face à des professionnels, entre guillemets, qui ont déjà un pied dans le métier plus important. Est-ce que ça met une pression supplémentaire quand même, ou c'est quelque chose, finalement, tu as déjà, par rapport à tes projets précédents, tu sais que tu as l'expérience, vous savez que vous avez l'expérience avec le studio ?
Maintenant oui, mais à cette époque, à l'époque de Love, Death & Robots, non, pas vraiment. Nous, après, on savait qu'on avait une expertise qui était la 2D, et on avait confiance en ça.
Et ça a été facile aussi de vendre le projet en 2D, justement, ou est-ce que c'était prévu peut-être sur
nos projets originaux ? Ouais,
projets originaux, ouais.
C'est venu un peu plus tard, et maintenant, la 2D est un peu revenue, donc c'était plus facile à vendre. Je pense que ça l'aurait été avant que Netflix arrive, en fait. Netflix a quand même changé un peu la donne au moment où ils sont arrivés, parce que ça a relancé vraiment l'industrie de l'animation. D'accord. Et de l'animation 2D, mais l'animation globale aussi, parce qu'ils ont voulu plein de projets. Enfin, toutes les plateformes en général. Après, il y a eu Amazon, il y a eu Disney, HBO, tout ça. Et ils ont relancé quand même beaucoup de projets d'animation, quoi. Mais avant ça, la 2D, effectivement, il n'y avait plus trop de projets de cette envergure.
Et c'est pour ça qu'on arrive à un personnage aussi qui a fait beaucoup compter pour la cinéma 2D, la personne de Genndy Tartakovsky.
Ouais, Genndy Tartakovsky, qui est, peut-être vous le connaissez si vous regardez un peu de dessins animés, si vous avez regardé des dessins animés dans les années 90-2000, c'est un auteur américain, il a fait beaucoup de séries, il a fait Le Laboratoire de Dexter, Samurai Jack, il a fait une des premières séries en 2D de Star Wars, Clone Wars, des films, des longs métrages aussi en 3D d'ailleurs, qu'il a pas fait que de la 2D, notamment Hotel Transylvania. Donc c'est une figure assez installée quand même de l'animation maintenant. Et il nous a contacté un jour en disant qu'il avait une nouvelle série et qu'il se demandait si nous on pouvait la produire. Cette série, c'est Primal, donc justement la série mentionnée tout à l'heure. Qui est une super série. Je dis pas ça parce que j'ai bossé dessus, mais c'est vraiment un super projet. Et c'était un peu inattendu, parce que déjà nous on s'est jamais trop vu comme un studio qui faisait du cartoon, parce que c'est spécifique le cartoon à l'américaine. Il y a des codes très précis. Enfin, c'est une autre manière d'animer encore. Et nous, quand on regardait ce qu'il avait fait précédemment, c'est-à-dire Le Laboratoire de Dexter, ces trucs qui sont vraiment très cartoon, très humoristiques, on se disait, mais c'est pas du tout nous, en fait, on sait pas.
Surtout qu'il a un trait très géométrique pour le coup.
Voilà, il a un trait qui est très différent du nôtre, donc on s'est dit, on va peut-être passer, on n'est pas sûr qu'on soit les plus adaptés pour cette série. Mais il nous a envoyé quand même l'animatique, donc le board commenté un peu du premier épisode. Et on a eu un énorme coup de cœur sur le projet, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose déjà qui sortait complètement de ce qu'il faisait avant. C'était une série très personnelle, avec un parti pris artistique très fort. Donc c'est une histoire c'est la collaboration entre un homme des cavernes et un dinosaure qui vont s'allier un peu pour survivre, parce qu'ils ont vécu tous les deux un drame personnel en perdant leurs enfants et leur famille dans un monde un peu brutal comme ça. La série est sans dialogue, donc c'est que de l'animation, que du storytelling visuel. Et il arrive à faire passer énormément d'émotions, énormément de choses. Et c'était beaucoup plus sérieux et plein d'émotions que ce à quoi on s'attendait. C'est pas du tout une série humoristique, même s'il y a un peu d'humour de temps en temps, mais c'est vraiment une série très adulte, assez violente aussi, parce qu'il veut vraiment, il a envie de faire passer cette idée d'un monde un peu, très dur, quoi, dans lequel les personnages essaient de survivre. Et voilà, et du coup on a tout de suite dit oui, en fait. En tout cas dans un premier temps pour faire le pilote, parce qu'on savait pas si on avait les épaules nous-mêmes pour faire la série entière. Mais on a fait quand même un test sur le pilote. Ils ont vu le résultat, ils ont dit c'est super, est-ce que vous pouvez faire la série? Donc finalement, on a, de fil en aiguille, on a dit oui et voilà. Je vais vous montrer un morceau de ce qu'il nous a envoyé pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce à quoi ressemble un pitch de Gendy quand il nous envoie ses animatiques. Je vais attendre qu'il y ait le son parce que le son est important. Il y a du son. Ouais.
We pan up, they're faced off. Roars at him, he jumps up, smashes it on its nose, it rears back, hits him, he flies, rolls over, into the water, comes out of the water all pissed off still. Runs at him, he jumps up, grabs its hand and grabs the mouth, the fucking tooth. And then the T-Rex comes up, starts jostling around, lays up, trying to shake him off all it can do. And then he rips with all his might the tooth out. Now he's got a tooth dagger. Another painful scream. This one watches. All the kids watch too from that scream. It's jostling around, trying to get rid of him, trying to get rid of him. And then he spins around, brings up into camera. He antics back and then... start stabbing him. Finally, she throws him off. Roars his pain. The caveman lands.
Voilà.
Donc, c'est la voix de Gendy Tartakovsky qui présente le.
C'est Gendy lui-même qui présente. Donc, ça, c'est les pitchs qu'il nous envoie à chaque fois qu'il nous envoie un épisode. Il fait ce petit pitch. C'est très à l'américaine. Hein. C'est un showman à moitié. Enfin, il est très fort pour faire ça. À côté de ça, il nous envoie donc tout un pack de storyboard, comme vous voyez là, avec des détails très précis de l'action. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en image un peu tout ça. Mais il y a une vraie collaboration qui s'est faite parce qu'il y a vraiment une manière de travailler qui nous convenait vachement. Parce que nous, on aime bien l'idée de travailler avec un réalisateur qui est capable lui-même de dessiner, de mettre les mains dans les plans, de nous faire des retakes en dessin. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de réalisateurs en animation qui ne savent pas dessiner, en fait, ou qui viennent du live et qui veulent tester l'animation. Et du coup, ils n'ont aucune idée de comment mettre en dessin, en fait, ce qu'ils veulent comme idée. Ils font confiance un peu à l'équipe. Mais des fois, du coup, ils peuvent aussi avoir des attentes qui ne sont pas celles qu'on peut faire. Enfin, voilà, il y a des fois une latence entre les deux, quoi. Entre les attentes d'un réalisateur qui ne sait pas dessiner et ce qu'un studio est capable de faire. Et donc, avec lui, la relation s'est vraiment super bien passée parce que lui aussi avait cette envie de pouvoir mettre les mains dans le cambouis un peu et dans les plans
eux-mêmes. Le langage visuel, c'était vraiment votre langage à vous deux, quoi.
Donc, voilà, ouais. Et puis, nous, on a repris un petit peu cette design. C'est-à-dire, ils nous envoient ces designs. On les adapte un petit peu pour les mettre un tout petit peu à notre style quand même si on sait un peu... nous, on s'adapte aussi à son style parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à maîtriser pour qu'on reconnaisse son style à lui. Mais voilà, il nous laisse aussi cette liberté d'adaptation un petit peu et lui s'est plié un peu au jeu d'essayer de dessiner un peu comme nous avec cette ligne un peu épaisse. Voilà. Donc c'est vraiment une collaboration dans les deux sens et ça donne une super série. On est très content de bosser là-dessus. On est en train de démarrer la saison 3 là, donc c'est pas fini. Et je crois que la série est dispo, je sais pas où tu l'avais vue, mais sur Prime Video, je crois qu'elle est accessible. Ou en pirate, elle est accessible aussi quelque part.
On le répétera pas.
Voilà.
Ça sera coupé au podcast.
Et donc là, c'était vraiment la première fois qu'on gérait une série d'animation en entier, en fait. Donc là, c'était notre premier projet. Alors, c'était de la commande. Donc là encore, on n'avait pas ni la réale, ni le scénario, tout ça. C'était pas nous qui faisions. Mais on faisait quand même toute la fabrication à une échelle qui était encore plus grande. Parce que là, c'est des épisodes qui sont... je crois que c'est 10 épisodes de... 10 épisodes de 20 minutes. Donc là, on commence à être sur des quantités assez énormes. Donc c'était plus d'un an de travail. Enfin voilà, avec des grosses équipes, voilà, qui travaillent sur et qu'il faut superviser. Donc voilà, un gros projet. Et là, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est senti un peu les épaules pour faire vraiment de l'animation sur des gros projets, quoi, des vrais projets, on va dire.
Et des vrais projets personnels.
Et des vrais projets personnels aussi, du coup, parce que la finalité, nous, du studio, on l'a créé parce qu'on voulait faire nos propres projets et nos propres histoires. Donc là, on arrivait au stade où on se disait, bah, maintenant, on va pouvoir enfin faire un peu nos propres projets. On a l'équipe qui est capable de les faire. On sait faire une production de dessins animés. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait un peu des envies de réalisation. Alors, moi, il y avait Kairos, mais à côté, je continue à faire de la BD. Donc, j'ai fait le Collège Noir à côté. Je vous montre aussi vite fait l'équipe de la série Primal, qui nous a fait gagner des Emmy Awards. Donc on était très contents de ça aussi. Et avant de parler de nos projets perso, un autre projet qui a eu une importance quand même au studio, c'était le projet Star Wars Vision, qui est donc une série Star Wars. Un peu comme Love, Death and Robots, le principe c'est un épisode fait par un studio différent, c'est les courts-métrages en fait. Et donc on a pu faire un de ces courts-métrages, ils nous ont contactés, Lucasfilm nous a contactés pour qu'on puisse faire un de ces courts-métrages. Et pour la première fois, on avait la possibilité de réaliser, d'écrire nous-mêmes l'histoire. Parce que c'était vraiment une vraie carte blanche, ils voulaient qu'on réalise et tout. Donc là encore, une fois, un step up de plus, où cette fois on avait le contrôle de tout, de l'histoire jusqu'au rendu final, avec du coup comme consigne quand même de faire un truc dans l'univers de Star Wars, donc avec des designs un peu connus et tout, mais en se l'appropriant et en faisant quelque chose de très personnel en fait. Donc on n'avait pas le droit de toucher aux persos iconiques comme Luke Skywalker, Han Solo, tout ça. Par contre, on pouvait situer notre action où on voulait, dans n'importe quel contexte, voilà. Donc nous, on a fait quelque chose. Une des consignes, c'était qu'ils voulaient un truc qui soit... Vu que chaque studio était d'un pays différent, ils voulaient qu'on essaie d'imprégner un peu de l'identité du pays, chaque court-métrage. Donc nous, c'était la France. Donc il fallait qu'on essaie de s'inspirer un peu de qu'est-ce qui est un peu inspiré de la France dans Star Wars. Donc on est parti sur quelque chose inspiré par la Résistance et l'Allemagne nazie, qui est déjà une inspiration dans Star Wars, avec l'Empire et les rebelles qui font un peu référence à ça, avec une histoire qui se passe dans un cabaret, avec une danseuse espionne.
Les décors font très Art Nouveau aussi, j'ai l'impression. Hein? Les décors font très Art Nouveau aussi, peuvent avoir un petit côté très français aussi.
Très Art Nouveau dans le design, du coup, on s'est inspiré de plein de design qu'on a trouvé un peu de cette époque d'occupation allemande à Paris et voilà, on a tiré une histoire comme ça qui est visible sur Disney Plus, si vous voulez la voir. Là je pourrais pas vous montrer l'extrait, mais sur Disney Plus vous cherchez Star Wars Vision et c'est l'épisode 4 je crois, je sais plus exactement, The Spy Dancer.
Et donc on avance, et là cette fois-ci c'est le premier projet personnel, on va revenir directement sur le Collège Noir. Je te propose d'avancer un petit peu, puisqu'on
avance un petit peu, parce quasiment... que donc effectivement on avait plusieurs projets, un chacun en gros, mes deux collègues avaient leur propre projet, Mehdi et Mouilly, qu'on est encore en train de développer, donc c'est bien avancé aussi. Le premier qui a réussi à se faire, c'est le Collège Noir du coup, donc j'avance un petit peu parce qu'on n'a pas le temps de montrer tout ça. Voilà, le Collège Noir. Le Collège Noir, qui est donc le premier projet original du studio. Donc là, pareil, on a pu tout faire de A à Z. C'est adapté d'une bande dessinée donc, que j'ai fait il y a quelques années. Ça a mis quand même 5 ans à sortir ce projet. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à me dire « Ah, j'aimerais bien l'adapter en dessin animé » et la sortie qui était il y a quelques mois, là, il y a 5 ans qui se sont passés. Donc 5 ans de recherche et de... à la fois pour l'histoire, le visuel et tout, mais aussi de recherche de financement surtout, parce que là, nouvelle étape du studio, c'est qu'il faut qu'on cherche des financements pour faire de la série originale, parce que sur des séries comme Primal, ça arrive tout près, c'est-à-dire ils ont déjà le budget et ils nous payent directement, ils nous font le chèque et on démarre. Là, sur un projet original, il faut qu'on aille nous-mêmes démarcher des partenaires, des plateformes pour demander est-ce que vous voulez financer notre série, est-ce que ça vous intéresse. Donc voilà, tout ce travail un peu a été assez long finalement. Et en plus du travail d'adaptation, c'est-à-dire que, comme je disais, c'est un peu comme pour Kairos, il y a tout un travail d'adaptation à faire pour passer de la BD à la série. Travail de recherche sur place aussi, parce que j'ai amené aussi les équipes de la série pour faire des repérages un peu sur place, pour qu'on arrive à rendre vraiment l'âme du Cantal, on va dire, et qu'on reconnaisse un peu l'architecture des lieux cantaliens, tout ça, ce qui est pas si fréquent en série d'animation. Souvent c'est des lieux un peu génériques, ça se passe dans un collège mais on sait pas trop où, ou alors c'est un peu, voilà, il y a pas de, c'est pas des lieux précis quoi. Oui. Là nous, moi je voulais vraiment, j'avais cette idée de que je voulais vraiment l'ancrer dans des lieux qui existent réellement, et m'en inspirer vraiment pour voilà, et que les gens qui sont déjà passés dans ces lieux dans le Cantal puissent reconnaître les endroits en fait.
Et c'est intéressant puisque c'est votre ton premier projet vraiment personnel en animation, et c'est un projet qui va toucher quand même une grande part d'intime puisque tu y inclus un lieu dans lequel tu as grandi.
Ouais.
Et on peut le dire aussi, certains des personnages de l'histoire, même clairement quasiment tous les personnages, sont des avatars de vos propres personnes en fait, du propre membre du studio.
Ouais, notamment Ous qui est Oussama en fait, un de mes deux associés. Ouais, tous les persos sont inspirés de personnages existants. En fait, la genèse du projet, c'était que c'était Bayard qui m'avait contacté. C'était un projet de commande. Ils voulaient que je leur fasse une série horrifique pour le magazine Géoado, donc tous les mois 5 pages de BD à faire, une série comme ça mensuelle. Et à cette époque, moi, je pensais faire une bande dessinée sur ma jeunesse dans le Cantal, en fait, faire un truc un peu autobiographique où je racontais mon collège. Et du coup, je me suis dit, je vais mélanger les deux. Je vais reprendre cette idée de faire quelque chose d'autobiographique, mais je vais le transformer en truc horrifique. D'où cette idée que c'est ancré dans le réel, c'est avec des personnages réels, je le raconte comme quelque chose d'autobiographique, et c'est inspiré en partie de choses autobiographiques, mais voilà, il y a toute une couche de fiction par-dessus qui s'est rajoutée, fiction horrifique. Et donc pour financer ce projet d'animation, donc une fois que la BD a été faite et que je me suis lancé dans l'idée d'en faire une série, un des premiers trucs qu'on a fait, ce qu'on a fait aussi pour les autres projets de mes deux collègues, c'est faire un petit pilote, comme ce qu'on avait fait avec Kairos en fait, c'est-à-dire pour montrer ce qu'on voulait faire en animation. De réaliser un petit pilote de, pour le coup, quelque chose de très court, 30 secondes, mais qui permet de montrer l'ambition du projet, ce qu'on veut faire visuellement et voilà, ce à quoi on veut que ça ressemble. Donc je peux vous montrer le petit pilote qu'on a fait. Donc ça, pour le coup, j'ai tout animé moi-même. J'ai eu un peu d'aide pour les décors parce que je suis pas très bon en décor, c'est pas ma spécialité. Donc j'ai deux décorateurs qui ont travaillé avec moi, mais tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. C'était vraiment en petite équipe, quoi.
Vraiment, d'accord, un projet. Et pour le coup, justement, donc on dit que tu reviens un peu à l'intime par rapport à ça. Ce projet, donc, tu vas vraiment le porter assez loin. Et avec ce trailer, donc, ça va te permettre de commencer à contacter et de découvrir donc des nouveaux financeurs. On parle de Netflix dans un premier temps, je pense.
On peut parler de Netflix dans un premier temps, ouais. Donc avec ça, effectivement, l'idée c'était qu'on a commencé à démarcher un peu des partenaires. Netflix qu'on connaissait, avec qui on était en contact, puisqu'on avait déjà bossé avec eux, on leur a proposé. Et ils ont été vachement intéressés par le projet. Donc ils ont acheté les droits de la BD et on a pu commencer un développement avec eux. Donc on a fait tout le développement de la série. Développement, c'est-à-dire vraiment poser l'univers graphique, poser un peu dans les grandes lignes le scénario, l'histoire, le rendu final, enfin voilà. Et donc on a fait tout ce développement avec eux. Arrivé à la fin du développement, au moment de rentrer en production, ils ont fait, bon, finalement désolé, on annule tout, on va pas faire le projet en fait, parce que c'était la période où il commençait à y avoir beaucoup de plateformes concurrentes, donc ils trouvaient que c'était commençait à être un peu, ils avaient pas assez d'abonnés à leur goût, et donc ils ont annulé tous les projets originaux en gros d'animation qui étaient en cours, quoi. Et donc on est reparti pour un an de financement. Ça a été un petit coup dur quand même, parce que on était prêt à démarrer, on avait une équipe qui était prête à démarrer, qu'on avait embauché et tout. Donc un an de financement. Finalement, on a rebondi en rencontrant ADN, qui est une petite plateforme française qui est pas très connue, mais qui proposait de financer la moitié de la série en échange de la première diffusion sur leur plateforme. À ce à quoi s'est ajouté Toei Animation, qui est un studio japonais, qui pour le coup est un gros studio très connu, qui à ce moment-là commençait à vouloir financer les projets européens. Et d'accord. Donc le Collège Noir leur paraissait être un bon premier projet, parce que eux, en échange, ils voulaient les droits internationaux pour pouvoir le diffuser au Japon et le diffuser dans le reste du monde aussi. Et il voyait aussi peut-être l'ADN qu'avait que le côté un peu japonais qu'il y avait dans le rendu, parce que nous on est encore une fois très influencé par l'animation japonaise, même dans les designs, il y a des choses qui viennent vraiment d'animation japonaise. Donc je pense qu'ils ont senti un peu cette filiation.
C'est un projet qui fait vraiment d'ailleurs le pont effectivement entre ce côté très influence japonaise, mais ce côté nature à la fois, donc très cantalien, mais qui peut également rappeler, voilà, évoquer plusieurs créations aussi japonaises. On peut penser évidemment, c'est assez classique, à Ghibli, mais c'est pas seulement ça.
Ouais, je voulais même un peu m'éloigner de Ghibli dans le sens où effectivement c'est la référence de tous les animateurs, c'est le studio le plus connu en animation japonaise pratiquement. Et je voulais pas non plus m'inspirer trop de Ghibli, et je suis allé plutôt chercher du côté des séries, parce que aussi Ghibli c'est très ambitieux, c'est des films qu'ils font, et ils font des films, c'est du travail d'orfèvre. Ça demanderait un budget monstre ici pour arriver à faire la même chose, pour arriver à la moitié de ce qu'ils font en termes de rendu et de qualité. Nous on avait un budget de série donc qui est ridicule par rapport à ce qu'ils auraient comme budget pour un long métrage de Ghibli. Donc j'ai plutôt cherché mes influences du côté des séries d'animation avec lesquelles j'ai grandi, moi les Pokémon, Crayon Shinchan, Digimon, enfin toutes ces choses qui sont japonaises mais qui ont une efficacité un peu dans la manière d'animer, parce qu'ils ont très peu de budget et ils sont un peu passés maîtres dans l'art d'animer des choses de manière assez limitée comme ça, c'est-à-dire en mettant l'impact sur des scènes fortes et en disant cette scène est importante donc on va bien l'animer. Ça c'est une scène de dialogue un peu basique, on va pas mettre trop d'énergie dessus et on va se contenter de faire un truc efficace, mais voilà, avec très peu d'images, et ils sont assez passés maîtres là-dedans. Donc je voulais un peu rendre ça dans le collège noir. Voilà, en termes de développement, pour vous montrer un peu plus d'images, bon alors ça c'est des recherches qu'on est allé faire dans le Cantal, j'ai ramené toute l'équipe du studio pour arriver à pour qu'ils voient un peu les paysages, parce que avec l'ambition que j'avais aussi avec la série du coup c'était vraiment qu'on reconnaisse les lieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis moi-même allé faire aussi beaucoup de photos, et j'ai donné les photos aux décorateurs pour que des fois sur certains panoramiques panoramas et décors un peu importants, ils se basent directement sur les photos. Donc vous allez voir, ça donne en gros, ils se sont vraiment basés sur les photos pour faire les décors. Comme ça, on pouvait reconnaître exactement le lieu. Ça permettait aussi de gagner un peu de temps sur la production, parce que si avec la base photo, ils avaient juste à décalquer la photo, donc c'était plus pratique. Ça permettait d'être un peu, d'être plus rapide. Après voilà, ça concerne certains décors naturels. Tout ce qui est l'intérieur du collège, le collège n'existe pas, donc ça par contre ils ont créé de toutes pièces les intérieurs de collège, et puis certaines scènes aussi où on a été obligé d'inventer quand même. Mais pour certains panoramas, je voulais quand même qu'on ait des vrais panoramas cantaliens, quoi, de paysages cantaliens existants.
Et en ça, tu pousses un peu plus loin par rapport à la bande dessinée, qui effectivement évoque le Cantal sans le citer. On pourrait même d'ailleurs le citer dans Kairos, où je trouve que le début de l'histoire, sans trop spoiler, évoque aussi des lieux qui pourraient se trouver très facilement dans le Cantal. Donc finalement, il y a quand même toujours une espèce de boucle où tu reviens.
C'est ça.
Tu reviens toujours un peu sur ce point de départ.
Complètement, ouais. Dans Kairos, effectivement, le début pour moi se passe dans le Cantal. Et comme je disais, finalement ça a nourri pas mal de mon art, en fait, le fait d'avoir grandi dans le Cantal et d'avoir ces paysages un peu en tête tout le temps.
Et donc la série vraiment le rend encore plus, puisque là les lieux sont véritablement cités.
Voilà, c'est un truc que j'ai pu pousser du coup plus dans la série. Dans la BD, y avait un peu ces contraintes qui faisaient que c'était donc des épisodes très courts. J'avais un mois pour faire 5 planches, j'avais pas forcément le temps d'aller faire vraiment des vraies recherches, un vrai travail de recherche sur les lieux et tout. Il fallait que j'invente assez vite. Donc cette frustration que j'ai eue de pas pouvoir forcément pousser certains trucs en BD, je me suis permis du coup dans la série de développer un peu plus tout ça. Pareil pour les relations entre les personnages, qui sont un peu moins poussées dans la BD, parce que voilà, encore une fois, il y a ce manque de temps et ce format qui était très assez court. Là j'ai pu développer vachement plus les relations des personnages, leur arc narratif, enfin voilà, tout ça. C'était le moment de faire ça, quoi.
Justement, c'est une véritable réécriture. C'est parfois compliqué de se réapproprier quelque chose qu'on a déjà créé une première fois.
C'était pas facile. Je pense que ça aurait été plus facile d'inventer un truc à partir de zéro plutôt que de reprendre ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé avec une scénariste aussi. J'étais pas tout seul à écrire, on était deux. Parce que j'avais besoin d'un regard extérieur qui puisse aussi me dire ça c'est intéressant de garder, ça faut changer, enfin voilà. Et puis aussi quelqu'un qui elle a beaucoup plus d'expérience que moi en scénario de série notamment, et donc c'est un format qui est assez spécifique. C'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît un peu les contraintes de ce format, la manière d'écrire un peu pour la télévision, enfin voilà. Donc c'était vraiment un travail à quatre mains. Et pour tous les autres domaines aussi, hein, je veux dire, sur l'animation, on avait des superviseurs d'animation et toute une équipe. Sur les décors aussi, qui est encore une fois un truc que moi je ne maîtrise pas vraiment, c'est un des domaines où je ne peux pas trop moi-même proposer des trucs. Donc là, on avait un directeur artistique des décors qui a vraiment fait un travail incroyable, et qui a géré un peu toute cette partie-là. Donc ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a une trentaine de personnes qui ont travaillé sur la série en tout.
Et donc c'était vraiment important de les amener dans la région et de faire découvrir la région cette expérience.
Au moins ces rôles un peu clés, comme le décorateur justement, enfin le directeur artistique du décor, il fallait qu'ils viennent dans le Cantal, donc j'ai invité et puis on a passé pas mal de temps à aller revoir les lieux, un peu s'imprégner un peu de l'ambiance quoi. Et donc voilà, on est arrivé en gros à un moment avec ces concepts-là qui étaient un peu les concepts du rendu de ce qu'on voulait dans la série. Et ça a été voilà la base de tout le visuel. Après, à partir de ces images-là, on a pu commencer à produire la série. Donc, pour finir sur le financement, on avait donc Toei, ADN et une bonne part aussi d'aide du CNC finalement. Ce qui est non négligeable dans la production française, c'est que le CNC permet à des studios comme nous d'exister tout simplement. Sans eux, je pense qu'on serait incapable de faire ce qu'on fait là, parce qu'ils aident. Ils aident au développement à toutes les étapes, ils proposent des aides financières, des bourses, et voilà. Et donc tous nos projets, les projets qu'on a, surtout les projets originaux qu'on a développés, se sont faits grâce au CNC aussi, qui a mis donc une bonne partie du budget. France TV a mis un peu d'argent aussi pour pouvoir récupérer pour une deuxième fenêtre de diffusion la série. Donc voilà, en fait c'est un montage beaucoup plus classique, c'est-à-dire c'est morceau par morceau, on arrive à faire le budget global.
Compléter, voilà, c'est des petites, c'est des Legos qu'on aime.
Exactement, c'est vraiment des Legos qu'on imbrique. Et voilà. Et donc après cette phase de développement, donc on a pu rentrer en production. La production, je peux vous montrer un peu étape par étape ce que ça donne. C'est-à-dire que donc on démarre avec le storyboard que moi j'ai bossé avec deux autres storyboarders. Là, en l'occurrence, c'est un plan que moi j'ai storyboardé, mais d'autres épisodes ont été storyboardés par d'autres personnes. Moi, j'avais quand même envie de superviser un peu l'ensemble en storyboard parce que c'est le moment où on met vraiment la mise en scène. Donc, il y a beaucoup de choses qu'après j'ai repris et que j'ai des fois modifié et tout. Mais enfin voilà, c'est encore une fois un travail avec beaucoup de gens qui bossent dessus. Donc, on commence par ce storyboard.
C'est ce qu'on appelle les key animation, c'est ça ?
C'est pas encore la key animation. D'accord, là, c'est vraiment le brouillon où je fais ça très vite. D'ailleurs, c'est pas très précis, c'est-à-dire qu'il y a pas voilà, c'est vraiment des bonhommes un peu patates des fois. Il y a pas tous les détails, mais c'est pour donner l'idée de la scène quoi. C'est tant qu'on comprend ce qui se passe, nous ça nous suffit. Il y en a qui détaillent beaucoup plus leur storyboard, qui rajoutent des ombres, enfin qui mettent quelques couleurs et tout. Enfin, ça peut aller très loin. Nous, on préfère avoir un storyboard comme ça qui est pas forcément très détaillé. Aussi parce que moi, je suis là tout le long du process, donc c'est je vais pouvoir.
Tu vas pouvoir superviser plus facilement.
Superviser ma vision sur l'ensemble. Là où effectivement, si c'était quelque chose que j'allais envoyer à un autre studio, par exemple, faire, j'aurais mis beaucoup plus de détails dans le storyboard parce que je voudrais que ce soit fidèle à ce que j'ai en tête, quoi. À partir de là, il y a les décorateurs qui prennent le relais, donc ils prennent le plan et qui font le décor. Ce qui va servir de base au travail du layout, qui est l'étape qui vient après. Entre-temps, le décorateur, lui, continue pour faire jusqu'à la couleur du décor. Mais à partir de ce décor trait, y a l'équipe du layout qui prend ce décor et qui va poser les premières poses de personnages. Donc ça, c'est le layout. Et c'est là qu'on pose les premières poses qui donnent vraiment le modèle du personnage. Donc pour l'animateur, ça va être important. Il va avoir 2-3 poses dans son plan et ça va lui servir de base pour faire l'animation. Donc il démarre avec une base d'un fichier où il a déjà 2-3 poses. Voilà. Là, il y a beaucoup de poses parce que c'est un plan d'action et c'est un des premiers qu'on a fait, donc j'ai pas mal détaillé. Il y a souvent moins de poses, des fois ça peut être juste une seule pose. Il faut juste qu'il y ait une pose qui soit clean, c'est-à-dire qui soit vraiment dans le rendu final qu'on veut. C'est-à-dire là, le gobelin, par exemple, il est vraiment dans le. Il faut que ce soit ce rendu-là, avec ce trait-là, cette ombre-là. Après, des fois, on fait aussi des poses plus rough, vous allez voir, là, voilà, il y a des choses un peu plus brouillonnes pour donner juste l'intention du mouvement. Mais il faut qu'il y ait au moins une pose clé qui servira vraiment de modèle pour l'animateur, pour savoir quel rendu il doit faire. À partir de là, il y a le premier jet d'animation, donc qui est encore très brouillon, mais où ça commence à bouger beaucoup plus. Ça, c'est validé par le superviseur d'animation. Et à partir de là, l'animateur va finir son plan et cliner la totalité du plan. Donc la ligne seulement, parce que c'est pas le même animateur qui va coloriser après. Et derrière, on envoie ça à la couleur. Donc c'est une autre personne qui colorise le plan, donc il prend la line et qui rajoute les couleurs. Donc vous voyez, il y en a qui courent sur place derrière, parce qu'en fait l'idée c'est que sur certains cycles comme ça, sur certaines animations, c'est plus facile de les animer après au compositing. C'est-à-dire c'est la dernière étape où il y a un artiste qui prend tous les éléments et qui fait l'image finale. Il fait un peu le sandwich final à partir de tous les ingrédients, quoi. Et c'est plus facile de demander à l'animateur d'animer un cycle de personnages comme là, et ensuite de le faire bouger au moment du compositing pour des Mais là, je commence à rentrer dans les trucs très techniques, mais voilà. Donc ça, c'était la couleur avec certains personnages qui bougent, qui sont juste en cycle comme ça. Et vous allez voir le rendu final du compositing, où il rajoute donc tous les petits effets de lumière et où il anime les personnages du coup. Donc il a pris le cycle et puis juste il les déplace pour que ça fasse. Voilà. Et voilà. En gros.
Fait quand même pas mal d'étapes pour faire un dessin animé.
Donc c'est un travail long et fastidieux. C'est très très long à faire un dessin animé. D'autant plus que nous, encore une fois, on fait ça vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire c'est de l'animation traditionnelle, donc on fait tous les dessins un par un à la main, quoi, en gros, tout simplement. Donc on s'aide très peu finalement de l'ordinateur, même si on fait tout sur ordinateur en réalité maintenant. Mais la technique finalement n'a pas changé depuis les plus vieux Disney, quoi. On fait toujours la même manière. C'est juste l'outil qui est différent. C'est au lieu de dessiner sur papier, on dessine directement sur l'ordinateur pour pas avoir à scanner les dessins un par un, quoi.
De la page blanche à la Cintiq blanche, en fait. On va pouvoir dire ça comme ça. La Cintiq, c'est les tablettes qu'utilisent maintenant beaucoup d'animateurs pour animer et faire les dessins, tout simplement. Est-ce que je vais en profiter? Il nous reste un petit peu de temps. On va pouvoir commencer à faire quelques questions. Si quelqu'un en a, vous n'hésitez pas à lever la main et à venir parler au micro, s'il vous plaît.
Parce qu'il n'a pas pu venir. Et du coup, c'est demande-lui pourquoi. il a choisi Gabriel Yacoub, le chanteur de Malicorne, pour le générique.
Ah oui, très bonne question. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu la série, il y a un générique d'intro dans la série, évidemment, avec une chanson chantée par Gabriel Yacoub et composée par Didier François. C'est un morceau que j'ai trouvé. Donc c'est un morceau qui existait déjà. Hein, ça n'a pas été créé spécifiquement pour la série. Mais moi, déjà, quand je travaille, j'ai tendance à chercher beaucoup de musique un peu dans le sujet ou dans le thème, dans l'ambiance que que j'écris ou que je dessine, pour me mettre un peu dans l'ambiance. Ça m'aide un peu à travailler, à me mettre dans le bon mood. Donc j'avais fait toute une playlist de musique inspirée un peu de chansons folkloriques, en fait. Et j'avais trouvé, je me souvenais de Malicorne, parce que c'était un groupe que mes parents écoutaient quand j'étais petit. Et donc comme cette série, c'était aussi un peu pour moi un retour en enfance, aller chercher les sensations et les ambiances que j'avais quand j'étais petit et quand j'étais ado, je pensais au groupe Malicorne. Donc j'ai cherché un peu dans leurs chansons, j'ai trouvé cette chanson de Gabriel Yacoub. Donc c'est pas Malicorne la chanson, par contre, c'est vraiment juste le chanteur Gabriel Yacoub, et c'est composé par un autre artiste. Et quand j'ai entendu la chanson, en fait, il y avait dans les paroles tous les thèmes du Collège Noir, en fait, dedans. Ça parle de volcan, ça parle d'enfance, c'est très mélancolique. Et du coup, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette chanson. J'ai contacté le label en demandant est-ce que je peux vous accepter qu'on utilise la chanson comme générique de la série. Ils ont accepté. Donc voilà, de fil en aiguille, c'est devenu un peu l'ADN du projet, en fait, de la partie chant, enfin la partie musique du projet. Parce qu'après, donc il y a un compositeur qui est venu pour faire tout le reste de la musique. Donc tout ce qu'on entend dans la série, c'est un compositeur qui a composé exprès, qui s'appelle Henri-Pierre Pellegrin, qui était un jeune compositeur qui a fait surtout du jeu vidéo, et qui, c'est la première fois qu'il faisait de la série. Mais ça m'intéressait pour avoir, parce qu'il a grandi dans le Cantal, enfin il a vécu une partie de sa vie dans le Cantal, donc il connaît bien déjà la région. Et je voulais cette sensibilité justement de quelqu'un qui venait du jeu vidéo pour avoir ma consigne, c'était qu'il s'inspire de jeux vidéo de cette époque, l'époque donc début des années 2000, où se passe la série, avec ces personnages qui sont vachement dans cet univers très vidéo ludique, quoi. Et de mixer ça avec des instruments traditionnels pour ajouter au folklore un peu le côté folklore. Donc voilà, donc il a fait un super travail, il a créé un peu toute la musique du projet, en s'inspirant aussi un peu du coup de la chanson du générique. Donc on retrouve des notes de la chanson du générique dans la musique après de la série. Voilà.
Je rebondis juste sur un petit détail en plus par rapport au son. Donc tu as parlé de la musique. Et il y a aussi quelque chose qui, moi, m'avait interpellé. Tu en avais parlé quand on s'était recroisé il y a quelques temps. Parmi les personnages qui peuplent la série, il y a une sorcière. Et tu as utilisé une conteuse qui est originaire du Cantal aussi, je crois.
Oui, ouais, Thérèse Canet, qui est une conteuse. Ouais. Alors ça, je me suis senti très chanceux de la trouver, parce que je me suis dit que ça allait être un cauchemar de trouver l'actrice pour la sorcière, parce que je voulais donc quelqu'un qui ait une voix de sorcière, quelqu'un qui soit bonne actrice, quelqu'un qui parle occitan couramment, parce qu'il y a de l'occitan dans la série. Je me disais que ça va être impossible à trouver. Et j'ai repensé à cette amie de mon, enfin une collègue de mon père, parce que mon père, parmi ses métiers de comédien, a fait aussi pas mal de contes et de lectures, choses comme ça. Donc, et il y avait cette femme, Thérèse Canet, qui était donc que j'avais rencontrée quand j'étais petit. Et puis je me suis souvenu d'elle, je me suis souvenu qu'elle faisait des contes, qu'elle parlait occitan. Et du coup, j'ai contacté, elle a accepté de faire la voix de la sorcière, et je suis extrêmement reconnaissant, parce que je pense pas que quiconque aurait pu faire la voix à part elle, quoi, en fait. C'était vraiment, elle était faite pour ce rôle. En plus, elle a apporté ce côté un peu théâtral, parce qu'elle a jamais fait de dessin animé ou de cinéma, elle sait plutôt les contes et les spectacles, son domaine. Mais ça, c'était aussi un plus, en fait, parce que ça a apporté ce côté très, un peu, ouais, théâtral du personnage de la sorcière. Voilà, ça marche super bien, je suis trop content.
Et on vous invite à découvrir sur France TV/ la série, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue.
Oui.
C'est vraiment une expérience à faire. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? N'hésitez pas, levez la main, on vous tendra le micro, il n'est pas trop tard.
Alors, c'est vraiment par pure curiosité, quels sont les prochains projets à venir du studio, et puis peut-être aussi par rapport au Collège Noir, suite ou pas ?
Collège Noir, pour moi, ouais, c'est la suite. C'est-à-dire, la saison 2, je vais commencer à l'écrire, là. On est encore en train de négocier un peu les termes pour la saison 2 avec tous les partenaires, mais ils sont, dans l'absolu, ils sont tous partants pour continuer, donc normalement, ça va se faire. À côté de ça, c'est aussi des autres projets originaux de mes collègues. Donc, il y a Mehdi, à Vie de Passage, qui est une série sur un postier à Sarcelles. Donc, projet plus réaliste, mais tout aussi fun et intéressant. Et Mouilly, qui est un long métrage, pour le coup, qui est une histoire très inspirée par la mythologie chinoise. Donc, qui est le projet de Julien Cheng. Donc on va essayer le plus possible, nous maintenant, de se concentrer sur ces projets-là. C'est-à-dire, idéalement, on aimerait bien pouvoir faire nos projets personnels et vivre de ça, en fait, de ces projets originaux. De manière plus réaliste, ça va probablement être compliqué de vivre que de ça. Donc à côté, nous, on garde quand même l'idée de continuer à faire de la prestation, en espérant que ce soit pour des projets un peu coup de cœur comme Primal. Parce que là, on a démarré la saison 3 de Primal, donc pour l'instant, on peut continuer avec ces projets-là, ça nous assure un peu des revenus aussi pour faire tourner le studio, quoi. Donc idéalement, on aurait un peu ces deux pôles en même temps, quoi, le pôle projet originaux et le projet de commande, en fait, mais idéalement sur des projets qui nous correspondent bien, quoi, et qui sont un peu de ce style-là.
Avant de passer à la conclusion, je signale juste que la séance dédicace va bientôt pouvoir reprendre. Je te laisserai conclure l'intervention dans quelques instants. Je terminerai juste en disant de mon côté que juste après cette séance de dédicace, vous aurez donc la possibilité de poursuivre l'expérience Ulysse Malassagne en allant voir le film Ernest et Célestine, Voyage en Charabie. Tu seras présent parmi nous pour présenter introduire le film, donc à 18h au cinéma Les Ambiances. Et juste après, si vous êtes encore plus courageux, vous pourrez même enchaîner avec au cinéma CGR Le Paris le ciné-concert d'Arietti en présence de Cécile Corbel, qui vous fera découvrir son univers et sa magie. Voilà, maintenant je te laisse le mot de la conclusion si tu souhaites terminer cette conclusion.
Comment terminer ça? Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir, regarder Le Collège Noir sur France TV, sur la plateforme de France TV, donc / c'est le meilleur moyen de faire connaître la série, en fait, c'est de la voir et d'en parler, parce que donc c'est un projet original, donc on compte beaucoup sur le bouche à oreille pour arriver à faire connaître le projet. Et à regarder de l'animation, continuer, parce qu'il y a plein de projets intéressants. Souvent, les gens ne soupçonnent pas à quel point l'animation peut être riche et en projet et en sujet. Il y en a pour tous les goûts, il y a des trucs très adultes, il y a des trucs pour les enfants, il y a des trucs entre les deux. merci encore d'être venu et de vous intéresser à mon petit studio.